Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM. Bienvenue dans l'émission du service patrimoine de la mairie, Regard sur le passé. Aujourd'hui, vous retrouvez Pauline et je vais vous exposer le lien entre naufrage et mise en place graduelle des dispositifs de surveillance et de signalisation maritime. Je vais citer des naufrages anciens qui attestent de la dangerosité de nos côtes. Je vais raconter certains naufrages directement à l'origine de la construction d'équipements de signalisation. Je vais également citer des accidents survenant après la mise en place de ces équipements. Les fortunes de mer que je vais relater sont sourcées dans les ouvrages de deux érudits vendéens, M. Roland Mornay et M. Bernard de Maisonneuve. Ce dernier a recensé l'ensemble des naufrages sur les côtes vendéennes entre le XVIe et le XXe siècle, et il a constaté que plus du tiers des disparitions de navires ont eu lieu dans les parages de la seule île Dieu. Cela représente au moins 500 naufrages. Ce nombre important de navires perdus s'explique surtout par la position de l'île sur une route maritime fréquentée et par la dangerosité de nos côtes rocheuses, rares par ailleurs en Vendée. Surveiller la mer est une préoccupation qui naît à la fin du Moyen-Âge. Souvenez-vous, lors de l'émission sur le château, j'ai évoqué les gardes-côtes de l'île Dieu qui s'entraînaient au tir à l'arc à la pointe du Châtelet. C'est Olivier V de Clisson qui autorise la création de cette milice lorsqu'il rentre en possession de l'île en 1392. 60 ans plus tard, elle comptait une cinquantaine d'hommes. À l'époque, la mer est perçue avant tout comme une menace qui amène jusqu'à l'île des bateaux portant des hommes parfois mal intentionnés. C'est pour cela qu'au départ, on surveille la mer dans l'objectif de se protéger des navires qui y circulent et non pas pour les aider s'ils sont en difficulté. Pourtant, le plus ancien récit évoquant une fortune de mer à l'île Dieu voit les îlets porter assistance à un vaisseau en difficulté. Nous sommes alors au XVIIe siècle et le navire appartient à Philippe d'Orléans, appelé en vertu de l'étiquette de la cour « Monsieur frère du roi » ou simplement « Monsieur ». Il s'agit du jeune frère de Louis XIV. Il a souhaité récompenser les îlets qui ont sauvé son navire en faisant concéder aux habitants de l'île Dieu le privilège de chasser la tourterelle. En souvenir de l'événement, une grosse roche de la côte sauvage, qui sert d'amer, a alors été baptisée Pierre à Monsieur. Malgré les risques encourus, la route commerciale maritime apportait quelques revenus à l'île par le biais des taxes payées par les navires qui y faisaient relâche. C'est pour permettre aux navigateurs de mieux repérer la position de l'île Dieu que l'église Saint-Sauveur est surmontée d'une flèche au XIVe ou au XVe siècle. Ce point de repère, cet amer, sera reconstruit en 1774. La nouvelle flèche est plus trapue pour mieux résister au vent, mais surtout plus haute. Elle mesure à elle toute seule 17 mètres, soit, si on ajoute l'altitude sur laquelle on a construit l'église et le bâtiment en lui-même, on peut évaluer la hauteur totale du bâtiment à une soixantaine de mètres d'altitude, plus haut que le grand phare. La flèche a été financée par les ports de commerce de Nantes, de La Rochelle et de Bordeaux, car un nombre conséquent de bateaux de ces ports naviguait autour de l'île. Elle était surmontée d'une vigie, établie dans un clocheton vitré, qui servait à observer les corsaires anglais qui croisaient dans les parages. Cette vigie est remplacée dans les années 1860 par le sémaphore de la Pointe du But. Le premier rôle des sémaphores est militaire. On y surveille les navires suspects et on utilise les mâts à signaux dont sont pourvus ces bâtiments pour relayer des messages tactiques. Cependant, plus on progresse dans le temps, plus les enjeux humains et financiers de la circulation maritime augmentent. De ce fait, la mission principale des sémaphores tend à devenir la garantie de la sécurité des personnes et des biens. On le voit par exemple pendant la Première Guerre mondiale, où le sémaphore de la Pointe du But repère les navires mis en difficulté par les sous-marins allemands et transmet la position des navires aux sauveteurs en mer afin qu'ils puissent porter secours aux équipages. Ce premier sémaphore est placé au nord-ouest de l'île, pour être au plus près de la route maritime. Un second est construit au sud, près de Saint-Sauveur, vers 1900. Il permet d'apporter sécurité et information aux navires plus rares qui croisaient dans cette zone. En août 1944, les soldats allemands n'ont dynamité que le sémaphore principal sur la pointe du but, de sorte que celui de Saint-Sauveur est resté en fonction et demeure, à ce jour, en fonction. Ah, la pointe du but! Avec ses courants, ses hauts fonds, son vent dominant qui pousse les bateaux à la côte, elle a eu raison de bien des navigateurs. Pour tout témoignage des naufrages les plus anciens, il ne reste que les squelettes que les grandes marées révèlent de temps en temps sur les dunes de la côte norrois. 15 squelettes ont pu être étudiés à ce jour. Et la datation au carbone 14 nous apprend qu'il s'agit d'hommes morts entre le 11e et le 17e siècle. C'est impossible d'être plus précis avec ce type d'analyse. Plus récemment, au XVIIIe siècle, le récif du Grand Champ a été le théâtre de deux naufrages qui vont se dérouler à 12 années d'intervalle. Il s'agit du naufrage en 1772 du Royal Louis et en 1784 du Conseil des Flandres, et ce sont tous deux des navires négriers. Dans les deux cas, ils revenaient de Martinique, touchent terre à Belle-Île, puis longent les côtes atlantiques en direction de Bordeaux. Leur voyage s'est arrêté au large de la Gournaise. Le journal de bord du Conseil des Flandres peut indiquer que le compas du vaisseau était en fait défectueux et que, mal orienté par l'appareil, le pilote a conduit le navire à sa perte. Ce ne sont que deux exemples parmi d'autres, et le nombre très important de naufrages sur cette côte, amène dès la fin du XVIIIe siècle les navigateurs à demander l'érection d'un phare pour mieux signaler la côte norrois. L'État est réticent à fournir les fonds, et ce, malgré la disparition de plusieurs de ses unités. Par exemple, en 1804, trois navires appartenant à l'État, la Jeanne, la Désirée et Jeannette, vont s'échouer le même jour. Arrive, en janvier 1827, le naufrage de l'Active. Il s'agit d'une gabare, un navire de transport, qui appartient aussi à la marine d'État. C'est un vaisseau d'une taille importante et il portait 80 hommes d'équipage. Aucun n'a survécu. Lorsqu'en pleine tempête, l'Active a percuté le haut fond de Basse-Flore et a coulé en quelques minutes. Après ce drame, les pouvoirs publics entreprennent enfin la construction du phare de la Petite Foule. Il servira à signaler les dangereux récifs de la côte nord-ouest de l'Île-Dieu, mais aussi à baliser le sud de l'estuaire de la Loire. Le coup d'envoi de sa construction est donné suite à un naufrage, mais s'inscrit aussi dans un plan plus large. Le XIXe siècle, c'est en effet l'âge d'or de la construction des phares. La commission des phares, plus tard phares et balises, est créée en 1811. Elle a pour ambition de doter les côtes françaises d'une ceinture lumineuse si dense que les navires aient toujours un phare en vue lorsqu'ils circulent sur nos côtes. Pour être toujours plus performants, les ingénieurs de cette commission testent différents modes d'éclairage et d'amplification de la lumière. C'est ainsi que dans les années 1820, Augustin Fresnel invente la lentille qui porte son nom. Elle permet d'intensifier et de concentrer en faisceau la lumière d'une lampe à huile, à l'époque, pour en augmenter significativement la portée. Le phare de la Petite Foule est l'un des premiers à en être doté. Il est achevé en 1830. Mais sera détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, de sorte que le phare actuel a été construit entre 1948 et 1950. Son feu se trouve à 51 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le phare porte le nom de la colline sur laquelle il a été bâti. Il est à quelque distance des récifs qu'il signale, mais il est judicieusement placé pour profiter de cette petite hauteur. Bien entendu, le phare n'est pas visible en cas de brouillard. C'est ainsi qu'en 1875, le steamer néerlandais le Bordeaux éperonne les chiens Perrin et va ensuite s'échouer près du Caillou Blanc. Les 17 hommes de bord quittent le navire sans prendre le temps d'éteindre les chaudières, ni, paraît-il, de finir leur petit déjeuner. Ils quittent le navire et se dirigent vers le large. J'imagine qu'avec le brouillard, ils n'ont pas vu qu'ils étaient littéralement à la côte. Quoi qu'il en soit, des pêcheurs insulaires trouvent le bateau au lever de la brume et montent alors à bord pour sauver la cargaison. Ils ne seront pas déçus de leur trouvaille, puisqu'ils tombent nez à nez avec un tigre vivant en cage. J'imagine leur terreur, parce que ils n'en avaient sans doute jamais vu, hein, même pas dans un livre d'images. En tout cas, tout l'équipage du Bordeaux, et le tigre aussi, a survécu au naufrage. En 1878, celui de la Mathilde n'aura pas cette chance. Pris en pleine tempête, le trois-mâts heurte les chiens Perrin et se brise sur les rochers au pied du sémaphore. Le seul survivant parmi l'équipage avait été enlevé de son bord par une lame et projeté à la côte, sonné mais vivant. C'est la perte de la Mathilde qui engage les phares et balises dans la construction d'une tourelle pour indiquer les mortels chiens Perrin. Il faudra pourtant 15 ans avant qu'elle ne soit achevée. Elle est l'œuvre d'un ingénieur des ponts et chaussées, M. Doux, et mesure presque 20 mètres de haut. Il s'agit d'une balise cardinale ouest, c'est-à-dire qu'elle indique qu'il est dangereux d'emprunter la passe entre la pointe et le récif des chiens Perrin et qu'il convient de le contourner par l'ouest, par le large. Toutes les balises cardinales disposent d'un code lumineux spécifique à leur point cardinal qui leur permet de remplir leur office également la nuit. C'est d'ailleurs un point que j'ai laissé de côté tout à l'heure. Mais les phares aussi disposent d'un code lumineux. La différence avec les balises, c'est que ce code est propre à chaque phare. Par exemple, le grand phare actuel émet un éclat blanc toutes les 5 secondes. Ainsi, un navire qui repère cet éclat et ce rythme sait sans ambiguïté qu'il est au large de l'île-Dieu. Derrière la mise au point de ce système de code lumineux se cache le travail des ingénieurs des phares et balises. Ils vont travailler, durant le 19e siècle, sur des mécanismes d'horlogerie et plus tard sur des moteurs qui permettront d'obtenir une rotation des feux. Voyez-vous, à la fin du 19e siècle, il y avait en France environ 300 phares et feux de port qui fonctionnaient. Ça fait beaucoup de codes lumineux. De nos jours, il y en a environ 200 qui sont encore en fonction. Autre innovation technique majeure pour les phares et balises, c'est l'électrification des phares qui intervient à toute fin du 19e siècle. Le phare de la Petite Foule est d'ailleurs un des premiers à être doté d'une lumière électrique en 1895. Quant à la corne de brume, elle est mise en service dans le même temps. Elle a d'ailleurs été conçue par le même ingénieur que la balise cardinale, M. Doux. La corne de brume disposait de 8 cornes et la petite maison servait de caisse de résonance. Quittons maintenant le Norrois et rendons-nous dans le sud de l'île. La pointe des Corbeaux n'est bien sûr pas exempte de fortune de mer, mais elle a tout de même été moins meurtrière que celle du But. On y a cependant érigé, en 1862, un phare d'une dizaine de mètres. La construction du phare des Corbeaux ne semble pas liée à un naufrage particulier. L'objectif était à l'époque de favoriser le cabotage près de cette côte sud, et notamment en signalant les récifs autour de la pointe des Corbeaux. Cela n'empêchera malheureusement pas le naufrage de l'Amazone, 2 ans plus tard. Il s'agissait d'une goélette nantaise. Je pourrais prendre d'autres exemples. Le phare est détruit le 26 août 1944, tout comme son grand frère de la pointe du But. Le phare des Corbeaux est reconstruit et remis en service en 1950. 2 fois plus petit que le grand phare, il a aussi une moindre portée. Il émet 2 éclats toutes les 15 secondes et il s'agit d'un feu à secteur rouge. Il y a également au corbeau une balise tourelle qui est une cardinale est. On voit donc que les côtes ilaises ont été dotées de plusieurs équipements dédiés à la surveillance et à la signalisation maritime. Ils ont souvent été construits suite à un drame qui a fait prendre conscience au pouvoir public de la nécessité de leur construction. Ainsi, la côte norroise, la plus meurtrière, est pourvue dès 1900 de trois dispositifs utiles en différentes circonstances. Le phare la nuit, la corne pour le brouillard et la tourelle en tout temps. Pourtant, cela n'empêche pas, entre autres, le naufrage de l'Arta en 1933. Pris dans la brume, ce chalutier l'orienté s'est échoué près des broches. L'équipage sera sauf. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. La technologie et les infrastructures dont nous disposons permettent de nos jours d'apporter plus de sécurité à nos marins. Cependant, le risque zéro n'existe pas. Il n'était pas au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Cependant, je tiens à saluer les sauveteurs en mer qui restent actifs même en cette période de confinement, comme en témoigne leur Facebook. C'est la fin de l'émission. Mardi prochain, Pascal abordera un thème plus léger, en narrant des anecdotes issues de l'ouvrage de Jean-François Henry, La Fagoteuse. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et un bon courage pour la suite du confinement. À bientôt !